Vous êtes sur RTL.
6h RTL petit matin avec Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est la dernière avant la grande fête nationale. Ultime répétition pour le défilé du 14 juillet en ce moment même sur les Champs-Élysées à Paris.
Des pas millimétrés, une cadence collective pour 4000 hommes et femmes. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le corps de Vincent Lambert autopsié ce matin à Paris. Il sera ensuite restitué à son épouse Rachel Lambert. Rendez-vous le 20 décembre, c'est la fin du procès France Télécom. Le parquet a requis les peine maximale, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et puis le Tour de France, Julien Alaphilippe qui perd son maillot jaune pour une poignée de secondes.
Et puis la météo en copie double, ce sera avec Marina bien sûr d'ici 6h30.
Le ciel est couvert ce matin à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, mais patience, le soleil va revenir cet après-midi avec 24 degrés.
Si vous êtes parisien, les avions de chasse vous ont donné un avant-goût du 14 juillet hier.
Ils ont traversé le ciel de Paris, spectacle visuel et sonore. C'est la répétition du défilé de la grande fête nationale. L'événement rassemblera plus de 4000 hommes et femmes à pied, 196 véhicules et 270 cavaliers. Début des festivités à 10h. Pour que tout soit prêt, militaires et policiers s'entraînent depuis plus de 3 semaines. Et la répétition générale, eh bien, elle a lieu en ce moment sur les Champs-Élysées où vous vous trouvez, Aurélie.
Et oui, on entend derrière moi Thibaut en train d'accorder son corps. Il fait partie de l'orchestre des sapeurs-pompiers de Paris. La cinquantaine de musiciens présents ouvrent le bal ce matin. Et c'est sur un air britannique, Pomp and Circumstance, que les répétitions débutent. Les unités ont pris un peu de retard. Ils s'installent doucement sur les Champs-Élysées. Julie a 21 ans, elle fait partie de l'armée de l'air. C'est la deuxième fois qu'elle participe au défilé et son enthousiasme reste le même.
Je suis très heureuse de redéfiler au 14 juillet. C'est toujours un plaisir de défiler sur les champs.
Et pas trop de stress ?
Pour l'instant non, puis on verra le 14. C'est toujours une fierté et puis il y a votre famille qui vient vous voir, donc c'est toujours un bon moment à passer.
Les chars et les troupes commencent petit à petit leur avancée. On peut dire que Paris se réveille en douceur et en musique ce matin.
Aurélia Valarié, j'ajoute que dès demain midi, un large périmètre de sécurité sera mis en place autour des Champs-Élysées. Les rues aux alentours seront fermées dès 7h du matin. Des Champs-Élysées qui ont été pris d'assaut par les supporters de l'Algérie cette nuit. Après la qualification des Fennecs pour la demi-finale de la CAN, des magasins ont été pillés, le périphérique parisien bloqué pendant quelques heures. L'Algérie affrontera le Nigeria dimanche. La Tunisie, elle, sera opposée au Sénégal.
Olivia, vous nous le disiez en titre, le corps de Vincent Lambert sera autopsié ce matin à Paris.
Vincent Lambert, dans un état végétatif depuis 2008, est mort un peu plus d'une semaine après l'arrêt des soins. L'autopsie permettra, selon le procureur, de vérifier que l'arrêt de ses traitements a bien respecté la loi. Une enquête est également ouverte dans cette affaire. Les directives anticipées auraient permis d'éviter plus de 10 ans de bataille juridique. Odile Pouget, elles sont aujourd'hui la seule possibilité d'exprimer ses dernières volontés.
Oui, avant son accident en 2008, Vincent Lambert avait, selon son épouse, pris position contre tout acharnement thérapeutique. Sans toutefois laisser de directives anticipées. Un dispositif qui existe depuis la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie. Une possibilité de dire par écrit, sur papier libre, signé, daté, que l'on refuse justement toute obstination le jour où les traitements ne feront plus effet. On peut par exemple préciser si l'on souhaite une réanimation. Une sorte de testament médical illimité dans le temps, révocable à tout moment, que l'on peut faire figurer dans son dossier médical, que l'on peut aussi confier à un proche. Les médecins, eux, ont l'obligation de le respecter, sauf cas très précis, une urgence vitale, le temps d'évaluer la situation ou des consignes qui semblent inappropriées. Pour l'instant, seuls 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées, 34% envisagent de le faire.
Odile Pouget, ce soir, je vous le disais, le corps de Vincent Lambert sera restitué à son épouse et tutrice légale Rachel Lambert.
François de Rugy, lui, est toujours ministre de l'écologie.
Il est maintenu au gouvernement. En tout cas, Édouard Philippe lui a renouvelé sa confiance hier en fin de journée à Matignon, empêtré dans l'affaire des dîners fastueux et des travaux dans son ministère. François de Rugy va faire l'objet de plusieurs enquêtes. L'Assemblée va éplucher les factures, notamment de ces fameux repas. Et puis, nouvelle révélation embarrassante selon Mediapart. Le ministre de l'écologie louerait un logement social à Orvault, près de Nantes, depuis 2016. Il s'en défend sur sa page Facebook. Il dit ne pas être au courant du caractère social de l'appartement. Échange de mail avec l'agence immobilière à l'appui. C'était un autre feuilleton estival pour la majorité. On reparle d'Alexandre Benalla ce matin. C'est une info RTL. Il est visé par une nouvelle plainte pour des soupçons de corruption russe. L'association Anticor dénonce les liens entre Alexandre Benalla et un proche de Vladimir Poutine, Iskander Makhmoudov. Certaines informations secret défense auraient pu être divulguées au cours de leur rencontre.
Et puis c'est la fin d'un procès hors norme, celui de France Télécom.
Rendez-vous le 20 décembre. Le tribunal correctionnel de Paris rendra alors son jugement, 10 ans après plusieurs suicides de salariés de l'entreprise. Les ex-dirigeants étaient jugés pour harcèlement moral. L'ancien PDG Didier Lombard n'a pas dit un mot à la barre hier. Le parquet a requis les peines maximales, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende après 46 jours d'audience. Alice Moreno.
Oui, 2 mois de débats inédits pour analyser la problématique de la souffrance, du harcèlement au travail, décortiquer un dossier épais de millions de pages. Avant de lever la toute dernière audience, la présidente prononce d'ailleurs un discours tout à fait inhabituel. « Nous repartons avec un poids exceptionnellement lourd », dit-elle. Puis elle salue le courage de ceux qui se sont mis à nu, les témoins proches de salariés suicidés ou les salariés eux-mêmes, des larmes, de colère ou de délivrance, des silences, le tout déposé au pied de cette table de justice. Par moments même, on se serait cru aux assises, concède un avocat de la défense. Les juges le savent, la décision qu'ils rendront dans quelques mois fera jurisprudence. Une affaire particulièrement complexe dans laquelle ils doivent démêler les situations personnelles des parties civiles pour les confronter à la responsabilité de l'entreprise. Les parties civiles qui attendent une condamnation à la peine maximale pour les 8 prévenus, tandis que l'ex-PDG Didier Lombard et toute l'équipe dirigeante de France Télécom nient toute responsabilité, toute volonté de harcèlement.
Alice Moreno, dans l'affaire des bébés nés mal formés, sans bras, le comité scientifique recommande des investigations dans le Morbihan. Les familles réclament une enquête de terrain depuis plusieurs années. En revanche, les experts estiment que chercher les causes de ces malformations dans l'Inde ne sont pas nécessaires. 8 cas ont été signalés dans le département entre 2009 et 2014.
On va analyser tout cela dans quelques minutes avec Emmanuelle Amar, qui est directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes. Et la décision donc de ces experts ne doit pas la ravir forcément ce matin. Elle est notre invitée en direct dans quelques secondes. Quand le livre rouge répond à l'homme au chapeau noir.
C'est la guerre depuis mercredi entre Marc Vera et le guide Michelin. Le chef de la maison des bois Manigaud en Haute-Savoie ne veut plus de ces 2 étoiles. Il a perdu la 3e en janvier dernier et depuis, il est amer. Ils sont incompétents, a même dit Marc Vera sur RTL hier. Gwendal Poulenec, directeur du guide Michelin, lui répond ce matin.
Ces allégations sont vraisemblablement quand même de mauvaise foi parce que c'est glorifie de 3 étoiles, mais lorsque j'en perds une, je remets en cause le système, c'est inacceptable. Le fait que Marc Vera ait affirmé que les inspecteurs du guide Michelin ne soient pas venus visiter son établissement est proprement scandaleux puisque c'est très bien que les inspecteurs du guide visitent les établissements de façon anonyme et c'est bien la preuve que l'on est conforme à nos valeurs, à nos principes. Maintenant, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute, j'ai commandité une certification par huissier qui viendra constater que Michelin, sur présentation des notes de frais, de l'ensemble des rapports circonstancés, est bien allé visiter l'établissement de Marc Vera à plusieurs reprises sur ces années. Donc voilà, je ne saurais en aucun cas laisser porter ces accusations par M. Vera, ni sur leur professionnalisme, ni sur leur compétence. Marc Vera, son établissement, tant qu'il est fermé et qu'il opère avec le niveau de qualité actuel, restera recommandé dans notre guide avec ses 2 étoiles.
Au micro RTL de Christophe Bourouf.
RTL, Tour de France 2019.
Et donc Julien Alaphilippe qui perd son maillot jaune pour une poignée de secondes.
6 secondes. C'est l'Italien Giulio Ciccone qui le récupère au sommet de la planche des belles filles. La victoire d'étape est pour le Belge Dylan Teuns. Pour le reste, Thibaut Pinot le confirme, il est en grande forme. Geraint Thomas tenant du titre aussi. En revanche, Romain Bardet n'avait pas vraiment les jambes hier. Aujourd'hui, 7e étape, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Le Tour sillonne donc l'Est de la France. Et c'est l'occasion pour l'unité opérationnelle de police franco-allemande de faire son grand baptême, Quentin Vinet.
Oui, c'est la première action concrète pour ce gendarme français.
Adjudant-chef Bertrand Loubette.
Et ce policier allemand.
Polizei-Oberkommissar Christian Karl.
Tous les deux sont membres de l'unité d'opération franco-allemande et forment un binôme à l'occasion du passage du Tour de France sur les routes de l'Est.
Particulièrement sur ces 2 étapes qu'on vient de couvrir, Saint-Dié-Colmar, Mulhouse, la planche des Belles-Filles. Outre les germanophones d'Allemagne, on a aussi une population germanophone de Suisse. Et c'est effectivement important de pouvoir s'exprimer dans leur langue, notamment pour tout ce qui est ouverture de route, fermeture de route, là sur l'étape du Tour de France. C'est tout de suite plus pertinent ouais. En expliquant dans une langue qu'ils comprennent que simplement leur dire que c'est interdit, où là c'est péremptoire et au final le message passe de manière moins évidente.
Autrement dit, les gendarmes français et les policiers allemands choisissent la meilleure langue pour s'adresser au public.
Oh, ça dépend. J'espère on parle beaucoup de français, mais quelquefois je parle aussi allemand. Ça dépend.
10 binômes binationaux sont répartis sur le parcours. L'unité n'a pas de pied-à-terre, pas d'uniforme en commun. Elle est née après la ratification du traité d'Aix-la-Chapelle en janvier dernier.
C'est véritablement un marqueur de la construction européenne.
Et parmi les prochaines opérations, il y aura le G7 à Biarritz et la fête de la bière à Munich.
Quentin Vinet, et puis l'information que Marina attend, le foot, Antoine Griezmann au Barça, ça se précise, c'est même imminent selon la presse.
J'ai hâte.
Les dirigeants catalans ont versé 120 millions d'euros pour libérer l'attaquant français de son contrat avec l'Atlético Madrid.
Oui, j'allais vous le dire. Merci Olivia pour cette information.